Shmuel Retbi, Falafel. Prologue. Vous connaissez ces pains ronds et plats qu'on remplit de toutes sortes de trucs exotiques et suggestifs. Pour aussi bizarre que cela puisse paraître, il s'agit encore d'une occasion de rivalité entre les Israéliens et les Palestiniens. Les premiers appellent ça le falafel et considèrent la chose comme le mets national. Les autres protestent et déclarent que le falafel appartient exclusivement à la culture gastronomique arabe et que les Israéliens les ont dépossédés de leur patrimoine culinaire. Nous n'allons pas mettre ici de l'huile dans la poêle brûlante où rôtissent les petites boulettes de la controverse. Occupons-nous plutôt de la nature de l'objet et des ingrédients. Le falafel se vendant sous la forme d'une poche de pâte à pain plus ou moins rebondie mais fermée au regard, il s'avère difficile d'en identifier le contenu, même quand on plante les dents dedans. Comme aurait dit Pierre Dac, il vaut mieux en avoir 30 dedans et 2 dehors, cela aidera à la consommation. L'encyclopédie Larousse nous fournit une définition un peu superficielle mais assez exacte de la chose, je cite. Merci, Monsieur Larousse. Falafel, nom masculin. Galette de pain non levée, fourrée de petits beignets de pois chiches et de légumes crus. Spécialité du Moyen-Orient. De façon à éviter tout malentendu, je tiens à préciser 1. Que la galette forme comme une poche au moment de la cuisson. 2. Que la pâte lève, ce qui permet à la poche de se former. 3. Que les légumes crus ne font pas partie des boulettes, mais viennent à part, vous deviez vous en douter d'ailleurs. Notons encore que le pois chiche constitue l'ingrédient principal, mais non unique, de la boulette. Le pois chiche, cet inconnu, s'avère nécessaire, mais non suffisant. Plus il y a d'ail dans les boulettes, mieux on se porte. Ajoutez à ça du persil haché, du bicarbonate de sodium, du sel de sodium, un vieil œuf oublié et un peu de farine de fèves, mélangez le tout, attendez un petit quart d'heure, lavez-vous les mains si vous y tenez, faites de petites boules et jetez-les dans la friture. Remuez pendant 30 à 40 secondes, voilà. Moins vous changez l'huile, plus vous passez pour un pro. Tranchez un petit arc de 6 à 8 cm sur le bord du pain rond, ouvrez délicatement, badigeonnez les parois intérieures de houmous et de tahina, voir ces mots chez M. Larousse. Mettez 5 ou 6 petites boules au fond de la poche. Ajoutez tomates, concombres, carottes, oignons, poivrons, un petit filet de jus de citron, un petit coup d'amba, vous y êtes. L'amba, c'est une sauce à base de pulpe de mangue. Servez chaud. On aime ou on n'aime pas. Comme disait ma belle-mère, aimer, on aime papa et maman. Le manger, on le mange. Ces précisions faites, nous pouvons croquer dans le vif du sujet. Chapitre 1. Un sac dans la nuit. Une nuit sans lune enveloppait la rue d'une opacité obscure et sournoise. D'un geste sec, Yaron Danino extirpa l'énorme sac des profondeurs de la poubelle dont il referma sans bruit le couvercle. Un coup de sifflet strident retentit dans les ténèbres. Deux agents de police, un gros et un maigre, sautèrent sur Danino d'un bond, ou plutôt de deux, chacun le sien. Pendant que le plus costaud entraînait sa proie, le deuxième tonitruait dans son talkie-walkie. « On a une prise, patron! Amenez la tire, rue Jaffa, au 220 !» 30 secondes plus tard, la navette s'arrêtait au bord du trottoir dans un crissement de pneus hollywoodien. Le gros flic jeta le prisonnier sur la banquette et s'installa à sa droite. Le poulet malingre déposa le sac sur le siège avant droit, contourna la voiture et monta à l'arrière par la portière de gauche. Le démarrage sur les képis de roue aurait fait trépigner de jalousie les Warner Brothers dans leurs belles années. Le conducteur soupesa le sac de sa main droite tout en brûlant un feu rouge. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Le costaud déclara. C'est des rognures de pita falafel. Ils ont dû tremper ça dans du coco ou fourrer ça au gras. On verra bien. C'est le gros truc, patron. On va avoir de l'avancement. Il était temps. »
Le gringalet surenchérit.
« Imaginez, patron, la gueule de Bénite et celle de Bamberger dans le journal puis à la télé. Je vois déjà les gros titres. Un réseau de contrebande de camelourdes saisi à Jérusalem. D'autres arrestations vont avoir lieu dans les heures prochaines. Les brigadiers Bénite et Bamberger, au péril de leur vie, ont saisi. Mais par pitié !»
Le cri de Danino fut accueilli par un coup de coude musclé entre les côtes.
« Ferme-la, toi !»«
Mais... »«
Tu la fermes, dis !»
Nouveau coup de coude entre les côtes, suivi d'un lourd silence. Le conducteur, lieutenant ou en voie de le devenir, expliqua.
« Ferme-la ! Nous, on n'est pas là pour tailler une bavette, mais pour travailler. Tu t'expliqueras devant l'inspecteur de garde. »
Danino la ferma, le torse endolori, l'âme froissée et la tête basse. Chapitre 2. Un banc dans la nuit. La grosse porte de fer se referma sur le nouveau prisonnier. Une ampoule maladive projetait sa lueur chétive dans l'espace de la petite cellule. Yaron Danino se laissa choir sur le banc sordide plaqué le long du mur. Il enfonça le cou dans ses épaules maussades et ne bougea plus, les yeux fixés sur le bout de ses chaussures. Un vieux mendiant reposait sur le banc d'en face, tout emmitouflé dans un vieux manteau trop grand pour lui. Sur le troisième banc, un adolescent arabe contemplait le nouveau venu avec des yeux remplis d'effroi. Il n'avait pas plus de 16 ans et passait là sans doute sa première nuit au poste. Le vieux mendiant s'adressa pour la troisième fois au jeune garçon.
« Alors, t'as fait quoi, toi ?» « Moi, je passe presque toutes les nuits ici. C'est chaud, c'est sympa, il y a de la soupe le soir et un bon café chaud le matin. Et puis, il me relâche. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait, toi ?»
Le jeune homme regardait le vieillard sans mot dire. Peut-être savait-il déjà que ce genre de type avait pour occupation essentielle le déliage des langues. Peut-être la peur le poussait-elle à observer l'adage « Botus et mouches cousues. » Le mendiant se tourna vers Yaron.
Et toi, t'en as fait quoi, toi? T'as pas l'air d'être de la haute, mais t'as pas l'air d'un mafioso non plus. Qu'est-ce que t'en as fait, toi, pour qu'il te coince dans la boîte comme ça?
Yaron esquissa un léger haussement d'épaule. Un petit Judas s'ouvrit. Une demi-figure farouche parut.
Va être minuit! « Allez-vous la fermer là-dedans ?»
Yaron tenta de saisir l'occasion.
« Monsieur l'agent »
« Ferme-la ! Tu l'ouvriras si on te le demande !»
Le Judas se referma sur l'austère visage et sur les bouches muettes. Le mendiant essaya encore une ou deux questions sans recevoir de réponse et le sommeil prit lentement possession de la cellule. Yaron somnolait sur son banc. Il se répétait sans cesse son slogan préféré. « Nous n'allons pas laisser le désespoir nous enfoncer dans la dépression. » Cette formule magique parvint à le soutenir toute la nuit. À 7 heures, les bols de café arrivèrent à la satisfaction générale.
« T'as fait quoi, toi, dis ? » s'efforçait encore le mendiant.
À 7h30, la lourde porte s'ouvrit à nouveau et le pauvre diable quitta la cellule, le sourire aux lèvres. Comme on refermait le battant de métal, Yaron entendit un tiroir qu'on claquait et la voix joyeuse du vieil homme qui s'exclamait.
« Rien à en tirer. Allez, merci les potes, et à ce soir !»
Chapitre 3. Un rire dans la tourmente. Vers 8 heures, la porte s'ouvrit à nouveau et le jeune arabe fut invité à sortir. Lui se referma sur la solitude de Yaron Danino. La dépression semblait gagner des points sur le désespoir, mais celui-ci se défendait farouchement. Enfin, sur le coup de la demi, le dernier prisonnier fut autorisé à quitter sa geôle. Son gardien l'emmena le long d'un couloir lugubre. Au milieu, Yaron arrêta sa marche et lorgna les toilettes d'un œil suppliant.
Le flic devait être dans un bon jour, car il l'autorisa à entrer pour satisfaire un besoin bien naturel, non sans lui avoir recommandé de refaire surface en moins de 60 secondes sonnantes et trébuchantes. À sa sortie de ce temple du bien-être retrouvé, Danino constata que le désespoir et la dépression gisaient, inertes, côte à côte, sur l'arène de son esprit tourmenté. Désespoir et dépression avaient succombé, vaincus tous deux par leur lutte elle-même. Le bureau du commissaire baignait dans le soleil d'automne. Yaron observa le visage rond et satisfait du maître de maison derrière sa table massive sur laquelle traînait un tas de paperasses et d'objets malsains. Il y avait même un gros revolver à l'air patibulaire qui vous invitait au calme et au respect des lieux. Le fonctionnaire ne leva même pas les yeux. Penché nonchalamment sur son ordi, il commanda simplement « Nom et prénom !» Yaron prit son courage entre ses dents et prononça « Monsieur le commissaire, je voudrais prévenir ma femme de ma situation. » L'autre poussa vers lui le téléphone sans même le regarder. « Liora, c'est moi. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Seulement, j'ai passé la nuit au poste. Je t'expliquerai. C'est un regrettable malentendu. » Cette courte nouvelle ne saurait contenir, au double sens du terme, le torrent d'injures, d'insultes et de réprimandes qui coula le long du fil pendant la minute qui suivit. Le pauvre R écarta un peu le récepteur de son oreille meurtrie et dolente. Le commissaire bondit, saisit le combiné et coupa court au monologue de la furie. « Nom et prénom. Danino, Yaron. Profession. Inspecteur au service du fisc, section du petit commerce. » Un coup de tonnerre retentit dans la pièce. Le bruit allait croissant, roulait et grondait, et finalement s'éteignit dans quelque chose qui ressemblait à la quinte de toux de quelqu'un qui s'étouffe. Le commissaire avait ri. « Non, mais dis donc, mon pote, tu me prends pour la Vénus de Milo ou tu t'appelles Alexandre le Grand ?»« Monsieur le commissaire, je vois mon portefeuille et mon portable sur l'étagère derrière vous. Sans vous apprendre votre métier, je crois qu'il serait opportun d'y jeter un coup d'œil. » Le superflic obtempéra, visiblement gêné par tant de culots. Il prit le portefeuille et en vida le contenu sur son bureau, tout en gardant un œil sur son interlocuteur. Après une analyse profonde des documents, il prononça. « Admettons, mais faut quand même se mettre à table. Ne m'oblige pas à employer les grands moyens et lâche ton morceau. C'est quoi le truc du sac? Et pas de bobard. Ça risque de te coûter plus cher que ce que tu ne crois. » Ce n'est pas bien compliqué. J'enquête sur la probabilité de fausses déclarations de revenus des kiosques de falafel et... » Le tonnerre retentit à nouveau dans le poulailler. « Elle est pas mauvaise, celle-là. Fallait y penser. Pas mal. Vous n'avez qu'à appeler mon chef de service. C'est pourtant pas compliqué. » Le commissaire était bon enfant. Il ouvrit le portable de Danino et chercha dans la liste des contacts. Yaron l'arrêta sur un nom qu'il désigna comme celui de son chef. La conversation fut assez brève. Le commissaire écoutait tout en écartant le portable de son oreille. À la fin, il balbutia quelques mots de haute considération. Il hésita un moment. Il aurait bien voulu passer au vouvoiement, mais ce mode de dialogue n'existait pas dans les langues sémitiques en général et en hébreu en particulier. Il s'exprima donc dans des termes qui signifiaient approximativement « J'ai bien envie de vous garder à vue un mois ou deux. Il est furieux. Il dit comme ça qu'à votre arrivée au boulot, il va vous filer un savon dont vous vous souviendrez. Il dit que c'est la dernière connerie que vous faites dans Saturne et il a refusé de me raconter le truc du sac. » « Je vais le faire pour lui, monsieur le commissaire. Les marchands de falafel de la rue Jaffa vendent chacun entre 100 et 300 portions par jour. Le type que j'ai dans mon collimateur, le Jaffa Lafel, prétend vendre 150 pitas chaque jour et travailler 23 jours par mois. Cela représente donc environ 3500 portions par mois. Son prix de vente est de 14 shekels,
soit un revenu mensuel brut de 49 000 shekels. Sa déclaration annuelle est de 510 000 shekels. Tous les 14 décembre, il vient pleurnicher sur les malheureux 12% d'impôts sur le revenu que nous réclamons. Il prétend qu'il meurt de faim. À quoi je réponds invariablement « Eh bien, mangez du falafel !» Alors il éclate en sanglots et hurle « Vous voulez ma mort !» Le commissaire semblait beaucoup s'amuser. « Continuez. C'est quoi le coup du sac ?» Je suis arrivé à la conclusion que quelque chose ne tournait pas rond là-dedans. C'est le cas de le dire. Quoi ? Une histoire de drogue ? Oh non, ça c'est votre affaire à vous, ça ne m'intéresse pas, ça. Je veux dire qu'il y a quelque chose de frauduleux dans son histoire. Je me suis mis en observation 6 ou 7 fois et j'ai noté que plus de 250 personnes visitaient son officine chaque jour. Il se peut que 2 ou 3 personnes entrent ensemble, mais que pas toutes n'achètent. Il y en a sans doute certains qui entrent et ressortent écœurés ou choqués du prix ou de la qualité. Admettons. J'ai pensé qu'il fallait employer un moyen plus exact, plus scientifique, disons. Après mûre réflexion, j'ai compris qu'il existait un mécanisme irréfutable permettant d'arriver au nombre exact de falafels vendus en une journée. Il suffisait de compter les petits arcs de pita coupés et jetés à la poubelle. Or, cela, je ne pouvais le faire qu'à la fin de la journée et sans attirer l'attention. Voilà, c'est toute mon histoire, monsieur le commissaire. Le policier observa attentivement le visage franc de cet homme abattu. Il en avait vu des malfrats et des voyous au visage angélique et au regard clair. Finalement, il prit sa décision. « Écoutez, Danino, je gomme votre histoire. Je marche. Ou plutôt, je vous laisse marcher. J'ai donné ordre de faire examiner quelques échantillons de votre pêche nocturne. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville pendant les 2 semaines à venir et vous tenir à ma disposition à tout moment, portable ouvert. À la moindre incartade, je vous coffre. Retournez à votre enquête d'amateur. On va vous rendre votre sac de détritus et taillez-vous avant que je ne change d'avis. » La réclusion était terminée. Le commissaire enregistra rapidement son rapport et le fit signer à Danino. Prise d'empreinte digitale, petite formalité sans intérêt. Et enfin, la liberté. Fourbu, humilié mais libre, Yaron arrêta un taxi et se fit conduire à l'antre du service fiscal des petits négociants. Le taxi stoppa et le chauffeur annonça « Mur des lamentations, terminus !» Chapitre 4. Une boulette dans le système. Une demi-heure plus tard, Yaron Danino sortait du bureau du boss. Les mots résonnaient entre ses tempes brûlantes. « Vous avez encore fait une boulette, Danino. Une boulette, 2 boulettes, 750 boulettes, des millions de boulettes, des myriades de boules puantes s'entrechoquaient dans le billard de sa cervelle déchiquetée. » Il donnait toute son âme et la moitié de son corps à ce fichu service et se trouvait pris en tenaille entre les flics, la fraude, le falafel, la femme et le fisc. Il y avait déjà 4 plaintes contre lui émanant d'une chaîne de garages obscurs, d'un réseau de vente de produits de mercerie à la sauvette, d'un revendeur de gobelets en plastique et d'un chocolatier marron. Bientôt, il aurait le consortium du falafel sur le dos. Quel métier ! Debout, seul dans son bureau, il donna 2 virulents coups de poing dans le mur, l'un contre le désespoir, l'autre contre la dépression. Non, ça n'allait pas se passer comme ça. Non, le falafel serait écrabouillé, ratatiné, écorgé vif, étouffé et brûlé sur l'autel de la probité fiscale. Il s'assit devant son ordinateur et remplit fébrilement un formulaire de convocation immédiate à l'adresse du propriétaire de l'établissement, Jaffa Lafel. Le mardi suivant, à 10 heures exactement, l'honorable contribuable Yedidia Tsitskani comparaissait devant son juge, Yaron Danino. De façon à éviter un nouveau malentendu bien regrettable, nous noterons que le nom de cet honnête commerçant signifie plus ou moins « Ami de Dieu le Juste » ou « Théophile Justin. Yaron commença maladroitement.
Titkani, le juste, joli nom pour un type de votre espèce.
L'autre fondit en larmes instantanément.
Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous me poursuivez, vous me persécutez. Ma vie n'est plus qu'un long tissu de malheurs et de catastrophes. L'Inquisition espagnole, c'était de la tarte à côté de vous.
Du calme, cher monsieur, n'exagérons pas. Personne ne vous court après, et votre vie n'a pas l'air si lamentable que ça.
Comment ça? Vous me menez à la mort. Je n'ai plus rien à manger. Je suis réduit à la famine.
Eh bien, bouffez du falafel, mon vieux, je vous l'ai déjà dit.
Et vous trouvez ça drôle, vous?
Eh bien, moi, je vous le dis, je vais porter plainte, moi, plainte pour abus de pouvoir, pour tortures et menaces, moi, et pour tentative d'empoisonnement aussi. Voilà.
Allez-y, on se retrouvera au tribunal.
Pas au tribunal, chez votre boss. Moi, je vais porter plainte. On va vous vider avec un coup de pied au derche.
En attendant, regardons un peu où nous en sommes, s'il vous plaît. Il y a quelques jours, j'ai ramassé le sac dans lequel vous jetez les bouts de pita coupés. Il y en avait plus de 450. Votre déclaration de la fin de l'année dernière précise une vente moyenne de 150 portions quotidiennes. Comment expliquez-vous cette différence si significative ?
Au grand étonnement de Yaron Danino, le respectable Tsitkani éclata de rire.
« Espèce de poire! Tiens, vous me faites rire! Vous n'avez pas entendu parler de la grève perlée des éboueurs tout ce mois-ci? Ils ramassent les ordures tous les 3 jours dans chaque quartier en ce moment. »
L'argument était de taille. Yaron se sentit rouler dans la poêle brûlante comme une vulgaire boulette. Encore une boulette dans le système. Ses jours au service du FIC semblaient compter. Il réfléchit longuement, puis prononça
« D'accord, première manche pour vous. Pas mal joué.
Comme le règlement m'y oblige, je vous préviens que je vais faire une visite surprise chez vous dans les 15 jours. » Tsitkani se retira, arborant un joli sourire plein de malice sur son visage de faux jeton en vacances. 2 jours plus tard, la 5e plainte s'abattait sur le bureau du chef de service. Ce dernier convoqua illico l'inspecteur du service du petit commerce. Il fulminait.
« Dernière chance, Danino. Soit vous le coincez, soit vous sautez. »
Le mardi soir suivant, vers 8 heures, Danino fit signe aux 2 pieds nickelés qu'il avait interceptés 3 semaines plus tôt.
« Messieurs les agents, soyez témoins, s'il vous plaît, que j'extirpe un sac d'ordures de la poubelle publique 6 au 220 de la rue Jaffa, à côté du Jaffa Lafel. Ayez l'obligeance de vous souvenir que j'agis conformément à ma nomination comme inspecteur du service du fisc, section Petit Commerce. »
Les représentants de l'ordre public se regardèrent, haussèrent les épaules et poursuivirent leur marche débonnaire. Yaron entendit vaguement le terme arabe
« Majnoun »,
qui signifie à peu près « Maboul ». La dépression sortit la tête, tira la langue et fit un pied de nez espiègle. Le désespoir riait sous cape. L'inspecteur héla un taxi et se fit conduire chez lui. Par chance, sa femme n'était pas à la maison et il put se livrer à ses investigations sans avoir à donner d'explication ni à plier l'échine sous les colibés. Il sortit du sac 52 trognons de pita qui baignaient dans un tas d'autres détritus. La quantité limitée de rognures de pain le surprit. Imitant Louis Jouvet sans s'en douter, il murmura
« Bizarre, bizarre !»
Il décida de tirer l'affaire au clair. Le lendemain matin, il débarquait à 10h30 chez Tsitkani. Celui-ci le reçut avec un sourire goguenard.
On vient renifler la friture d'hier chez Yedidir? Les pots d'échappement des autobus ne vous suffisent pas?
Yaron jugea prudent de ne pas répondre. Il s'adossa au mur en face du comptoir de Tsitkani et observa. Une grosse marmite ronronnait dans un coin.
l'honnête commerçant y versa une cinquantaine de boulettes qu'il avait sorties de son frigo. La friture frissonna au contact de ses petits corps congelés. Les premiers affamés du jour se ruaient vers la petite boutique et le maître de maison tranchait, badigeonnait, emplissait, déposait les pitas sur les reposoirs de métal, recevait son dû et rendait la monnaie, tout cela à une vitesse supersonique. Yaron nota qu'il mettait les trognons de pain coupés dans une grande boîte chromée et non dans la poubelle. Il s'approcha et lorgna le contenu du récipient. Celui-ci contenait une dizaine de bouts de pita, baignant dans un liquide brunâtre qui sentait les épices. Tiscani profita d'une accalmie et extirpa les petits trognons à l'aide d'une passoire. Il fit voler le tout dans une grosse poêle à frire qui gronda à son tour. Pendant que les bouts de pain rôtissaient gentiment au sein de l'huile brûlante, il expliqua à l'inspecteur. « C'est une nouvelle ligne de production. On peut appeler ça du pain d'épices ou des frites à la cannelle, comme vous voulez. Cela, ça ne se vend pas, ça se donne comme antipasti. Vous voulez goûter ?» Sans attendre la réponse, il tendit à Yaron deux croutons longs et dorés. L'autre refusa d'un signe de tête. Tiscani avait l'air de bien s'amuser. « Je peux essayer de compter le nombre de types qui croquent là-dedans avant de recevoir leur pita falafel. Si ça peut faire avancer votre enquête, ce sera un plaisir. » Chapitre 5. Une boulette sur la sellette. Yaron eut un éclair de génie. « Chez qui achetez-vous vos pois chiches ?» Tiscani fronça les sourcils. Il réfléchit un moment et annonça « Cela ne vous mènera pas à grand-chose. Comme j'utilise une partie des pois chiches pour en faire de la pâte à falafel et une autre pour faire du houmous, votre argumentation va encore se casser le nez. » « C'est possible, mais ce ne sont pas vos oignons. Je vous ai posé une question, répondez. » L'autre réfléchit encore un moment et finit par donner deux noms de fournisseurs de denrées agricoles. « Facture !» demanda sèchement Yaron. L'autre soupira, ouvrit un tiroir et en tira une pochette de plastique crasseuse qu'il tendit à son tortionnaire. « Débrouillez-vous avec ça !» Danine posa le tout sur le comptoir, feuilleta et prit quelques notes sur un calepin. Tiscani marmotta. « Assassin, crapule, rançonneur, receleur !» L'inspecteur du fisc quitta les lieux sans un mot. De retour au palais des larmes, il s'adressa à l'économe et demanda qu'on lui trouve une balance de précision. Il fit savoir à qui de droit qu'il ressortait pour une petite demi-heure et se rendit au marché. Il parcourut la rue Agrippa de tout son long et acheta un falafel dans chacun des 8 kiosques qu'il rencontra sur sa route. Quand il regagna son bureau, il y trouva l'instrument demandé. Il sortit de son tiroir une machine à calculer et se mit au travail. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvrait dans un fracas apocalyptique et le patron faisait irruption dans la place. Mais dès son entrée, il s'arrêta médusé. Contenant sa colère, il parvint cependant à demander « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» D'un doigt fébrile, il montrait le bureau sur lequel s'étalaient des journaux tout dégoulinants. Sur les feuilles dépliées gisaient les cadavres de 8 pitas éventrés. Des bouts de tomates, de concombres, de poivrons et d'oignons déchiquetés expiraient dans la sauce à la mangue et la tahine. Quelques dizaines de boulettes avaient été déposées indemnes dans une assiette en plastique. L'inspecteur siégeait à son poste devant une balance sur laquelle trônait une petite boule verdâtre. Il tenait d'une main un stylo et sa machine à calculer de l'autre. Il leva les yeux et répondit dans le calme le plus parfait « Je calcule le nombre de boulettes de falafel vendues en un jour sur la base du poids de pois chiches acquises en un mois. « Vous avez 5 minutes. Si je ne reçois pas sur mon bureau un numéro entre 100 et 800 dans les 5 minutes à venir, vous êtes saqué. » Le terme « saqué » fut prononcé sur un ton qui fit trembler toutes les fenêtres du bâtiment. Épilogue. Une semaine plus tard, Yedid Yazidkani, président-directeur général de la société Jaffalafel, comparaissez devant le chef du service du fisc au ministère des Finances. On voudra bien prononcer tous ces mots avec la majuscule à laquelle ils ont droit, merci. » Le haut fonctionnaire termina son réquisitoire par une avalanche de chiffres imprimés à partir d'un tableau électronique. La conclusion est irréfutable. Si l'on suppose que le poids de houmous badigeonné dans une pita est égal à celui de deux boulettes, nous pouvons estimer que chaque portion contient l'équivalent de 7 à 8 boulettes. Le poids d'une boulette variant entre 18 et 20 grammes, nous arrivons finalement à une vente journalière moyenne de 280 à 320 portions. Vous avez déclaré que vos ventes se montaient à 150 pitas par jour. Comment expliquez-vous la différence ? Yedidi Atsidkani s'effondra sur sa chaise. Ses épaules étaient convulsées de soubresauts qui faisaient peine à voir. Il sortit son mouchoir de sa poche et essuya les flots de larmes qui couvraient son visage. « Monsieur le directeur, vous n'avez pas idée de la malhonnêteté des fournisseurs. Non seulement ils vous refilent des sacs de 12 kilos en vous facturant sur 15, mais encore, si vous saviez, monsieur le directeur. » « Si je savais quoi ?»« Près de 30% de la matière est bouffée au verre. Alors moi, vous comprenez, comme j'ai bon cœur et que j'ai pitié des pauvres, je refile tout ça gratis à un restaurant du cœur. Et vous, vous me tyrannisez, vous me passez à la torture comme un criminel. Ah là là, allez faire le bien, quel malheur !»